ferme le robinet. D'un coup, c'est le silence. Le bouillonnement cesse. Sous la nappe de mousse, l'eau s'immobilise. Seules les bulles savonneuses continuent de vivre, crépitant, craquant. Par moments, une grappe entière éclate, un trou se creuse. L'eau chaude affleure. La mousse reflue lui dit de se hâter. Elle fait glisser ses vêtements sur le sol. Passe une jambe par-dessus le rebord en faïence. Passe l'autre. Reçoit le choc de la rencontre avec le liquide brûlant. Elle attend que le bas de ses jambes s'habitue. Puis elle prend son souffle et s'assoit dans l'eau, la regarde monter autour d'elle, flirter dangereusement avec la limite du déversoir. Elle encaisse la brûlure, laisse le liquide envelopper tout son corps, mordre doucement sa peau, s'emparer d'elle tout entière, la tenir. Elle tend les jambes pour que ses genoux aussi descendent, absorbent la température délibérément trop élevée, réglée pour toucher à la perfection d'ici 5 minutes, quand le bain aura perdu 1 ou 2 degrés. Elle attend sans bouger que ses jambes se soient bien chargées de toute la chaleur possible. Puis elle ramasse les genoux contre ses seins et c'est tout son corps qui glisse vers le fond, se noie lentement, ses épaules, sa nuque, bientôt tout l'arrière de son crâne, avec ses cheveux qui paisiblement s'étoilent. Elle regarde les lauriers roses de l'autre côté de la vitre, descend encore dans l'eau. Plonge tout son visage dedans, reste en apnée sous la surface. Laisse la chaleur lui masser les tempes, lui laver les yeux et tout le visage. Lui envahir les oreilles, les narines, la bouche. Cela dure 30 secondes. Cela dure une minute. Elle voudrait que jamais ça ne finisse. Elle se sent bien sous l'eau. Il lui semble qu'elle pourrait y rester toujours. Elle ne se savait pas ce talent pour l'apnée, ni une cage thoracique d'un tel volume, des réserves d'air si considérables. Thank you. C'est le 20 septembre 2013 qu'il fut donné au dénommé Hellman de vivre la scène qu'il me raconta la seule fois où je le vis, et dont il m'affirma d'emblée qu'elle avait changé sa vie, qu'elle allait la changer à jamais désormais. C'était du moins le serment qu'il se faisait à lui-même, qu'il venait de se faire, puisqu'elle s'était déroulée quelques jours à peine avant notre rencontre. J'ai visité il y a peu la pièce où tout s'est passé, une petite chambre d'un service d'urgence pédiatrique, au 8e étage d'un hôpital ultra-moderne, sur les hauteurs d'une ville de province. Une pièce exiguë, au mur blanc, au sol en linoléum, à la fenêtre scellée, au lit cage à barreaux. J'ai été étonné de penser que tout avait eu lieu là. Que la résolution d'Hellman lui était venue après 2 semaines d'enfermement à cet endroit précis, entre ces 4 murs. En arrivant à l'hôpital, j'ai demandé si certains membres du service étaient déjà là il y a 7 ans. Si quelqu'un dans l'équipe se rappelait Hellman et sa compagne, dont il ne m'avait le jour de notre rencontre dit que le prénom A. Ou plutôt, puisque je savais à peu près nulles les chances que qui que ce soit se rappelle encore le nom d'Hellman ou de A, j'ai demandé si quelqu'un gardait le souvenir d'un tout mince enfant blond qui n'avait dû sa survie qu'à un miracle. L'infirmière à laquelle je posais ces questions était jeune. J'ai pensé que 7 ans plus tôt, elle devait à peine avoir fini ses études. Il y a beaucoup de mouvements dans les services, vous savez, a-t-elle dit doucement pour atténuer ma déception. Les médecins changent, les infirmiers et les infirmières basculent d'un étage à un autre, parfois d'un bâtiment à un autre. J'ai essayé de décrire Hellman. La jeune infirmière et d'autres membres du service qui l'avaient rejointe ont hoché la tête. J'ai vu qu'ils ne se rappelaient pas, que leurs acquiescements étaient de pure politesse, que ce qu'ils voulaient, c'était surtout faire bon accueil à mon histoire. Vous savez, c'est un moment très fort qu'on vit chaque fois. Avec chaque enfant, s'est excusée d'une voix calme une infirmière plus âgée que les autres. Pendant tout le temps que dure la crise, on tremble, on attend, on guette. Chaque jour, on observe les courbes. On tente de comprendre ce qu'elles annoncent. On regarde le gamin écrasé de fièvre et on prie pour qu'enfin la température tombe. Il y a des enfants qu'on sauve, a dit la femme. Et alors, dans tout le service, c'est une fête. Pendant plusieurs jours, l'étage entier vibre de l'euphorie des parents et de l'équipe. Tout le service est fier. Dans ces moments, il n'y a pas de métier qui procure le 1/100 de l'émotion que procure le nôtre. Et puis, il y a des enfants qu'on perd. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Le désespoir qu'on en éprouve. La colère contre la vie entière, contre la saloperie du monde. La tristesse, la rage. L'infinie envie de tout envoyer paître. Alors pour se protéger, on coupe. On rentre chez soi et je ne sais pas comment vous dire, c'est de la survie. On ne veut plus penser à rien qui est trait à cet étage et à son odeur de biceptine et de gel hydroalcoolique. La femme qui disait tout ça parlait d'une voix calme. Elle parlait en collant des étiquettes sur une feuille de soins. Ses gestes étaient précis, posés. Je ne me souviens pas de votre Hellman ni de sa compagne. Mais je suis contente que tout se soit bien terminé pour leur enfant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça s'est passé ici, à cet étage, entre ces murs qui sont exactement tels qu'ils étaient il y a 7 ans. Nous n'avons pas même refait les peintures. Dans une des chambres que vous voyez de part et d'autre de ce couloir. Dans la 817, je n'ai pu m'empêcher de dire. Et la femme a souri. À son tour, elle n'a pu se retenir de me demander qui j'étais, pourquoi c'était moi qui venais et non Hellman ou sa compagne. À quoi Je me suis contenté de répondre que j'avais perdu la trace d'Hellman depuis longtemps, à mon grand regret. Que je n'avais jamais eu la chance de rencontrer A. Et que de toute façon, ni A, ni Hellman n'étaient à ma connaissance du genre à revenir sur les lieux de leur passé. Au contraire de moi, qui en était presque fétichiste. Moi, qui ne pouvais tout simplement pas laisser le passé en paix, ni le mien, ni celui des autres. Et celui d'Hellman, moins encore que celui de personne. Aveu qui a eu le mérite de faire rire l'infirmière et m'a probablement fait gagner sa confiance ou au moins son indulgence. Je l'ai suivi sans plus rien dire jusqu'à la 817. Je suis entré. J'ai regardé la lumière qui s'engouffrait par la fenêtre, un grand flot de soleil tombé tout droit du ciel. La femme ne disait rien, me regardait simplement promener mes yeux dans la pièce, comme si elle aussi voulait comprendre à présent ce que je cherchais. J'ai marché jusqu'au lit, éprouvé la résistance des barreaux en les secouant un peu dans mon poing, posé la main sur le drap de coton fin où avait reposé l'enfant d'Hellman. Tous les deux, nous sommes restés un moment à attendre je ne sais quoi. Nous avons regardé la chambre vide, le coin de ciel bleu dans le petit rectangle de la fenêtre. Tenter d'imaginer le père et le fils allongés l'un près de l'autre pendant 2 semaines dans cette minuscule pièce. Vous avez raison. Ça me revient, a alors dit la femme. Je l'ai regardé qui acquiesçait à présent. Je l'ai écouté me décrire un couple avec un petit enfant très pâle. Un tout petit enfant arrivé presque inconscient déjà aux urgences. Où une interne à demi endormie avait failli le laisser mourir pour de bon, en demeurant pendant 3 heures aveugle aux symptômes, se méprenant totalement sur la gravité du cas, manquant conclure à une banale fièvre sans importance. Jusqu'au moment où une pédiatre plus expérimentée était entrée dans la pièce et avait touché la bombure à la fontanelle. La femme se rappelait le coup de fil au bloc qui avait immédiatement suivi. La tension dans tout le service, sitôt le bébé surgit de l'ascenseur, sur le lit poussé à présent par 3 aides-soignants d'un pas rapide. Les recommandations polies mais sèches du médecin de garde sur le chemin de la salle d'opération. La parfaite conscience qu'elle avait sentie chez lui, que tout était à présent entre ses mains. La vie de l'enfant dans ses mains, au sens propre. Sauvé ou perdu selon qu'il ferait ou non les bons gestes, parviendrait à soulager ou non la pression du liquide céphalique sur le cerveau. La tension de savoir que le moment qui allait venir était de ceux qu'il avait pendant toutes ces années d'études et de formation appelés de ses vœux. De ces moments qui donnent rétrospectivement sens à tout ce que vous avez cherché, justifient une vocation, placent enfin l'enjeu à une intensité maximale, que c'était maintenant. L'infirmière, debout avec moi dans la chambre, avait fait partie de la dizaine de soignants groupés autour du nourrisson. Elle se rappelait la léthargie de l'enfant devenu comme insensible, à tel point prostré de douleur que plus rien ne semblait l'atteindre. Le sang-froid avec lequel le jeune médecin avait plongé l'interminable aiguille entre la 3e et la 4e lombaire, vainquant la résistance de la colonne, relevant lentement le piston de la seringue pour la remplir d'un liquide jaune et rouge que tous avaient d'abord été soulagés de découvrir moins troublé qu'il n'avait craint. Puis, le froid qu'avait jeté, sitôt connu, les résultats de la ponction lombaire. Un taux d'infection si élevé que dans tout le service, les yeux s'étaient baissés, comme à l'énoncé d'un arrêt de mort certaine. Le coup de fil qu'avait passé le médecin au chef de service pour lui décrire le cas. La rapidité avec laquelle le responsable, malgré l'heure tardive, était apparu à l'étage. L'émotion dans sa voix. dans chacun des gestes qu'il avait eus pour décrire à son équipe le protocole qu'allait désormais suivre les soins. Il avait d'abord fait installer le lit de l'enfant dans cette petite chambre où l'infirmière et moi nous trouvions à présent. Il avait attendu qu'on perfuse le bébé de toutes les substances devenues indispensables à son maintien en vie, qu'on suspende au-dessus de lui toutes les poches de sérum et d'antibiotiques et d'antalgiques requises, qu'on appareille ses frêles membres et son torse d'électrodes et de ventouses, qu'on neutralise les alarmes des appareils affolés. Attendu, en un mot, que le décor ait été rendu un peu moins insoutenable. Puis il avait fait appeler les parents. C'était elle, l'infirmière, qui était allée les chercher dans le couloir où ils étaient pendant tout ce temps restés à attendre. Elle leur avait demandé d'une voix douce de la suivre. « Incroyablement jeune, je me rappelle, avait dit la femme. Incroyablement innocent et jeune. Ou était-ce l'amour qui les liait ? Était-ce la pensée de ce bébé minuscule que je venais de voir allongé dans la chambre et dont la jeunesse rejaillissait en quelque sorte sur eux, les faisait paraître plus neufs qu'ils n'étaient en réalité ? Comme font toujours les bébés, donnant invariablement à leurs parents l'air d'être le premier couple de parents de l'humanité, la première mère et le premier père, penchés sur le premier bébé, à jamais. L'infirmière les avait conduits à l'enfant, les avait regardés entrer dans la chambre plongée dans la pénombre, avait vu la façon dont ils s'efforçaient de rester calmes, de contenir leurs émotions. Alors le chef de service était entré, suivi de son cortège de blouses blanches, et le père et la mère s'étaient immédiatement raidis, avaient instinctivement senti, ou plutôt entendu, l'approche du drame, avait raconté l'infirmière. Pour ma part, c'était surtout l'irruption du bruit qui m'avait fait soudain violence, avait-elle dit. J'avais comme eux regardé la petite chambre se remplir en quelques secondes de toutes ces silhouettes habillées de blanc, et plus encore que par l'invasion visuelle, je m'étais senti agressé par l'invasion sonore. J'avais été frappé du vacarme que faisaient les pas de toutes ces chaussures et le froissement de toutes ces blouses, de la sauvagerie avec laquelle tout ce bruit déchirait le silence qui avait été jusque-là le nôtre dans la pièce étroite. Je me rappelle quand moi aussi l'angoisse était montée, mon cœur s'était mis à battre très fort, comme si la catastrophe en personne venait d'entrer dans la chambre. La catastrophe devenue blouse et bruit de chaussures et envahissement de l'espace jusqu'à l'étouffement. Plus personne n'avait bougé dans la pièce. Et Hellman et sa compagne avaient pris leur respiration et s'étaient préparés à encaisser le choc de l'annonce. S'étaient efforcés de se préparer au pire, comme font toujours en pareil cas les parents. Le chef de service avait parlé. Exposer la situation en des termes aussi simples que précis. Je me rappelle l'impression qu'il m'avait faite, avait continué l'infirmière, à la fois de tact et de franchise. Je m'étais dit que c'était un type bien. Il n'avait pas caché la gravité du cas, avait expliqué que toute l'équipe s'était d'abord refusée à croire à ce diagnostic, se raccrochant aux statistiques, s'efforçant de rester optimiste, écartant a priori l'éventualité d'un scénario qui survenait dans moins d'1% des cas. Il avait dit qu'à présent, il n'y avait plus qu'à attendre. Que maintenant, tout était entre les mains de ce petit être allongé là, qui allait montrer son courage et sa force. Le père et la mère avaient un peu hoché la tête en regardant leur enfant cloué de douleur, tombé dans une léthargie dont nul ne pouvait plus dire à présent s'il se réveillerait un jour. S'était efforcé de garder une contenance. J'avais vu que la mère prenait aussitôt la mesure des choses, avait dit l'infirmière, qu'immédiatement au-dedans d'elle, la terreur commençait de creuser ses galeries, d'emporter des étages, d'ouvrir des gouffres. J'avais vu qu'elle devait faire un effort surhumain pour ne pas s'effondrer devant nous, c'est-à-dire pour différer d'à peine quelques secondes cet effondrement, le réserver pour le moment où elle et lui seraient de nouveau seuls. Le funèbre cortège repartit, la porte refermée. J'avais immédiatement compris que le père, en revanche, continuait de se méprendre. Que peut-être moins informé ou simplement moins capable d'entendre ce genre de nouvelles, il demeurait sourd à ce qui arrivait. Ne comprenait tout simplement pas ce qu'on lui disait, ne comprenait rien. Que par un mécanisme de défense instinctif, sans doute, ses oreilles s'étaient fermées. Il avait posé cette question qui, par son décalage, nous avait tous laissés sans voix. S'il y avait des risques que l'enfant garde de tout cela des séquelles. Il y avait eu un blanc, avait raconté l'infirmière, et je ne pense pas être la seule à m'être dit à ce moment que pour rien au monde je n'aurais voulu être à la place du chef de service, obligé comme lui d'enfoncer le clou, d'ajouter encore aux explications pourtant limpides qu'il venait de donner. Monsieur, vous n'avez pas bien compris la situation, je crois. Nous n'en sommes pas à nous inquiéter des séquelles. De nouveau, tout le monde s'était tu. Il y avait eu un silence pendant lequel nous avions guetté le visage du père en cherchant à savoir si cette fois le coup avait porté. Je comprends. Avait fini par dire Hellman, sans nous convaincre tout à fait que c'était effectivement le cas. Je comprends. D'une voix si flottante que c'était le chef de service cette fois qui avait éprouvé le besoin de dissiper toute ambiguïté en formulant les choses de la façon la plus nue qui soit, avec toute la violence d'un tel énoncé qui avait résonné dans la chambre et nous était entré dans la chair à tous comme un coup de hache. La question, monsieur, est de savoir si votre enfant va vivre. La suite, Hellman me l'a raconté. Les jours et les nuits d'attente là, dans la pièce, à côté de l'enfant. Les heures interminables au début à guetter chaque mouvement de paupières ou de doigts, chaque rictus de douleur ou d'apaisement sur le visage. À surveiller chaque variation du rythme cardiaque et freiner au tableau d'affichage. Puis la façon dont même la souffrance ininterrompue de l'enfant avait fini par lui devenir familière. Même son rythme cardiaque du matin au soir supérieur à 200. La force monstrueuse de l'habitude, qui avait fini par accoutumer ses nerfs et ses pensées, même au fait que tous les indicateurs soient en permanence au rouge, que toutes les machines sans discontinuer clignotent, que jamais ne cesse à aucun moment de s'afficher les alertes de détresse respiratoire, de détresse cardiaque, de détresse tout court. Hellman n'est pas quelqu'un qui travestit les faits, ni qui les arrange pour essayer de se donner le beau rôle. Il m'a raconté le bonheur paradoxal qu'il avait éprouvé à se trouver là, au cœur de ce qui était en train d'arriver, allongé contre l'enfant dans une sorte de fusion avec lui, pour le meilleur et pour le pire. Il a dit la chance qu'il pensait avoir eue. La chance, c'est le mot que je me rappelle l'avoir entendu utiliser après l'avoir soigneusement choisi, en pesant bien toutes ses implications, en mesurant ce qu'il pouvait avoir d'apparemment déplacé, en se fichant bien que cela lui donne l'air de parler de tout cela comme s'il s'agissait d'un film trépidant auquel il lui avait été donné d'assister aux premières loges. La chance qu'il pensait avoir eue de pouvoir rester à l'hôpital. Au contraire de sa compagne qui, par une cruauté supplémentaire du sort, se trouvait avoir repris le travail quelques jours plus tôt seulement, après 7 mois de congé maternité, et s'était par conséquent trouvé dans l'impossibilité de redemander déjà un arrêt. D'un commun accord, ils avaient décidé que ce serait lui qui resterait là, à 30 minutes de voiture de chez eux, lui qui passerait les nuits près de l'enfant, lui qui en serait le gardien, en somme. Veilleur de nuit comme de jour, du matin au soir immergé dans le huis clos de la chambre et de l'étage, dont il s'était mis à connaître chaque recoin, chaque visage, chaque équipe de jour et de nuit. Cependant qu'A, contrainte d'aller et venir chaque jour entre son travail et l'hôpital, assumerait le rôle infiniment plus inconfortable de visiteuse quotidienne, de passeuse entre le dedans et le dehors, de destinataire de tous les coups de fil affolés, de tous les conseils apitoyés, de tous les récits supposés rassurés, de tous les regards effondrés dans les rues du centre-ville. J'ai bouffé la douleur de mon gosse jusqu'à m'en rendre malade, m'a dit Hellman, l'unique fois où je l'ai vue. Je l'ai bouffée sans même me rendre compte qu'elle entrait en moi, qu'elle m'envahissait, pénétrait à jamais chaque fibre de mon corps et de mes pensées, que je ne serais plus jamais le même. Pendant toutes ces nuits et toutes ces journées d'attente, je ne me suis rendu compte de rien. Je n'ai pas mesuré une seconde ce que tout mon être était en train de traverser. Au contraire, je me suis émerveillé de ma propre force. Je n'en revenais pas d'aller si bien, de tenir si bien le coup. Hellman disait cela en souriant presque de lui-même à présent, comme si la joie étrange d'alors lui revenait. Je me sentais plus fort que je n'avais jamais été. Et j'accueillais de toute la tendresse que je pouvais à, qui chaque fois qu'elle entrait dans la pièce était sidérée de voir ce qu'à force d'habitude je ne voyais plus. Les appareils en détresse qui 24 heures sur 24 clignotaient. La température qui, malgré les injections continues de Doliprane et d'Advil, refusait de descendre au-dessous de 40. Notre fils, qui sur le lit demeurait inerte, sans un signe de réveil, jamais. Si la température n'est toujours pas retombée au bout de 3 jours, je ne vous cache pas que ce sera mauvais signe, avait d'emblée prévenu le chef de service. Le 3e soir était arrivé et la température était toujours de 40. Et l'infirmier, en l'annonçant, avait eu beau prendre un air dégagé. Hellman et A s'étaient recroquevillés, avaient senti un poids infini les écraser. Cette nuit-là, j'aimerais pouvoir dire que je n'ai pas fermé l'œil, m'a rapporté Hellman. J'aimerais raconter que j'ai veillé, que je suis resté jusqu'au matin à observer mon fils, à guetter le moindre signe d'amélioration, à prier pour que les antibiotiques agissent enfin, à m'efforcer à chaque seconde de lui envoyer tout ce que je pouvais d'amour et de confiance en sa force de petit être accroché à la vie. J'aimerais raconter cela. Mais ce serait faux. J'ai dormi cette nuit-là, comme une pierre. Je me suis écroulé de sommeil et j'ai dormi sans plus penser à rien. Sans plus rien savoir d'où j'étais. J'ai dormi comme je n'avais réussi à dormir aucune des nuits précédentes. Et au matin, la lumière était déjà forte dans la chambre lorsque je me suis réveillé. Je n'avais pas vu le jour se lever. Le soleil tapait insolemment par la petite fenêtre. La vie dans le service avait repris. Je pouvais entendre tinter dans le couloir les plateaux des petits-déjeuners sur les tables roulantes, entendre les voix des infirmières qui s'échangeaient des recommandations, ouvraient les portes, lançaient en entrant dans chaque chambre un grand bonjour à l'attention de l'être encore ensommeillé au fond de son lit. Une infirmière est entrée avec son thermomètre à infrarouge et a machinalement flashé le front de notre fils, comme elle venait de flasher celui de tous les enfants précédents. Et la température n'était plus que de 37,6. La nuit était passée. Il faisait jour dans la pièce et je regardais notre enfant qui à présent dormait simplement dans le matin, comme dorment tous les enfants. Plus rien ne pouvait lui arriver maintenant. Il était sauvé. Je n'ai pas besoin de vous raconter la suite, a dit Hellman de la voix la plus calme qu'il a pu, en s'efforçant de masquer son émotion. Vous imaginez, sans peine, ce que ressentent deux parents qui, après avoir cru le perdre à jamais, voient leur enfant rouvrir les yeux. Vous devinez ce que cela fait, de voir votre fils qui se réveille, qui littéralement reprend vie et vous voit, et aussitôt sourit. De tous les traits de son visage terriblement amaigri, sourit à n'en plus finir. Je vous jure que c'est vrai, a insisté Hellman en luttant contre l'émotion qui revenait à présent le submerger. Il n'avait pas plutôt ouvert les yeux qu'il a souri, presque éclaté de rire de nous voir. Il a souri, sourit encore. Il avait la tête penchée sur le côté. Il était si épuisé qu'il ne pouvait plus même la bouger. Simplement, elle était tournée vers nous. Nous nous étions mis en face, exactement à sa hauteur. Et du fond de sa fatigue infinie, sitôt qu'il nous a vus, il a souri. Une première fois d'abord, et puis une autre. Sa minuscule tête toujours posée sur le côté. Il est resté à sourire sans plus nous lâcher du regard, à nous tenir, physiquement nous tenir. Il avait dans ses yeux je ne sais quelle sagesse venue de très loin. On aurait dit qu'il avait 1000 ans, qu'il savait tout. Que du fond de l'immobilité de tout son corps à bout de force, c'était lui qui, par son calme, trouvait la force de nous rassurer. De nous dire « Je suis là, ça y est, ne vous en faites plus. » Hellman m'a regardé avant de poursuivre. Je pense que vous vous représentez ce que cela réveille en vous de force, de détermination, a-t-il dit après un moment. Le bouleversement que vous en éprouvez, la recharge d'énergie, la sorte d'intensité absolue d'émotion que vous atteignez, la clarté dans laquelle tout votre être se trouve projeté, pulvérisé, désintégré. Hellman raconte que ce jour-là, il faisait beau, le ciel était d'un bleu intense au carreau de la petite fenêtre. L'enfant, au fond du lit, les avait regardés longtemps, sans seulement cligner des paupières, ses grands yeux plantés dans les leurs avec calme, avec force. Un regard si droit et clair qu'il s'était senti fendu en deux. Avait un peu tremblé même de tout ce que ce regard semblait voir d'eux, de leurs failles, de leurs impuissances. Tout ce qu'il leur donnait d'amour et de pardon. Un infini pardon accordé par un être infiniment plus sage et plus fort et meilleur que nous. C'est le sentiment que je me rappelle avoir eu, m'a raconté Hellman. Aucun regard ne m'a jamais pardonné comme ça dans ma vie. Et puis l'enfant avait fini par faire la chose la plus raisonnable qu'il y avait à faire à présent, en petit être qui, là encore, savait mieux que personne ce qui était le plus important, le meilleur pour lui et pour tout le monde. Il s'était rendormi. Pas rendormi banalement, simplement. Il avait plongé dans le sommeil comme une pierre, à pic, avec décision à nouveau. De tout son poids de gamin résolu à présent à boire son sou de sommeil, de tous les nœuds dénoués enfin de son corps, de tous ses membres et ses pensées enfin libérés de la douleur. Peu après, Hellman et A étaient descendus prendre un café au petit self de l'hôpital. Ils étaient sortis sur la terrasse en bois, gobelets en plastique brûlant dans les paumes. Hellman raconte que dehors soufflait un léger vent, il faisait froid et doré à la fois. Hellman raconte qu'A et lui, ce matin, se sentirent bien. Sentir très distinctement le soleil de septembre descendre doucement sur eux, les envelopper, leur réchauffer les joues et les mains. Il raconte que la rambarde métallique brillait, que les tables en aluminium scintillaient, et leur éclat était plus vif qu'il n'avait jamais été. Que même les visages des gens assis aux autres tables étaient plus clairs que les autres matins. Il raconte qu'A et lui, sur cette terrasse, ce matin-là, se sentirent pleins, chacun de leurs gestes nécessaires, comme lestés, graves, chaque pensée aiguisée, chaque vision baignée dans une transparence inconnue. Il raconte qu'il regardait autour de lui et qu'il lui semblait voir se découper les choses et les êtres dans une netteté neuve. Il sentait combien la place de chaque chose était juste, combien tout était ferme, combien il était formidable que les tables soient des tables et la rambarde une rambarde. Et même ces fichus gobelets en plastique, dégobelets en plastique, moches peut-être, et guère agréables entre les lèvres, mais formidablement aptes à faire ce qu'on leur demandait. Permettre qu'on porte un mauvais café sur la terrasse et qu'on le boive là, dans le soleil, sans illusion sur sa qualité de café, mais content, exactement comblé dans son attente, boire quelque chose de chaud dans la lumière et le vent léger du dehors. Ils racontent qu'A et lui se serrèrent dans leur manteau, se serrèrent l'un contre l'autre en renversant à moitié leur gobelet de mauvais café. Ils racontent que de toutes ses forces, il fit ce vœu, ne plus jamais quitter cette incandescence, faire que sa vie entière désormais se passe dans cette clarté. Lorsque j'ai rencontré Alman, il était debout sur le bord de la route, en larmes. Sa voiture garée en catastrophe sur la bretelle d'urgence. Feu de détresse allumé. Je me suis arrêté, je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. D'un geste de la main, il m'a fait signe que non. Qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, que tout allait bien. J'ai vu qu'il souriait, que tout son visage était tordu de larmes et de rire à la fois. J'ai pensé qu'il était fou. Il est venu près de moi et m'a raconté que son enfant était sauvé. Il a simplement dit ça. « Mon fils est sauvé, monsieur. Je suis désolé de vous avoir fait peur. » Il m'a dit que c'était la première fois depuis 2 semaines qu'il quittait l'hôpital. Depuis 2 semaines, j'étais là-haut, immobile, près de mon fils, dans l'obscurité, au 8e étage de ce bâtiment. Je dormais là-haut, je vivais là-haut. Chambre 817, il a ajouté en montrant la barre de l'hôpital accrochée aux collines. Il a dit qu'il n'avait rien vu venir, qu'il avait passé ce matin-là le relais à A et était monté en voiture sans se douter de rien. Et puis que dès les premières minutes, sa gorge s'était nouée, d'être à nouveau en train de conduire comme des milliers de fois auparavant, de voir à nouveau défiler les champs, de lire à nouveau les noms des villes sur les panneaux, de rentrer simplement à la maison. Je suis passé sous ce tunnel tout bête. Et en sortant, ça m'a pris à la gorge, cette excusée Hellman que je rencontrais pour la première fois et que je n'ai jamais revue. En me montrant le tunnel dont je venais moi-même de ressortir et que nous pouvions tous les deux voir, quelques centaines de mètres en arrière, ça m'est tout d'un coup sorti du corps. Ça s'est mis à jaillir au dehors de moi par mes yeux, par mon nez, par ma bouche. Il a fallu que je me gare, je ne voyais plus rien. Je me suis rangé sur le bas-côté et j'ai senti des spasmes me secouer. Un torrent dont pendant 2 semaines je n'avais pas même entendu le grondement. Mais ça va bien, monsieur, vous pouvez me croire. Ça n'est jamais allé aussi bien. Nous sommes remontés tous les deux en voiture après un moment, lui dans sa voiture, moi dans la mienne. Et nous sommes repartis. J'avais raconté tout cela à l'infirmière sans presque m'interrompre. Je me suis tu. Nous sommes restés un moment sans rien dire à regarder la chambre. Par la fenêtre, on pouvait voir le ciel bleu au dehors. J'ai remercié l'infirmière. J'ai dit que j'étais heureux d'avoir pu revoir ce lit. Le revoir ? Elle m'a repris avec étonnement. Le voir, vous avez raison. C'était une façon de parler. C'est juste que j'y ai beaucoup pensé. Je me le suis souvent imaginé. J'ai vu qu'elle me regardait de travers. Et vous savez ce que sont devenus Hellman et sa compagne ? Je l'ignore, hélas. Je voudrais bien savoir où ils sont, ce qu'ils font aujourd'hui. Je voudrais bien savoir ce qu'il reste de toute cette lumière. Et vous savez si l'enfant va bien ? J'imagine que oui. Vous imaginez ? Je veux dire, je ne conçois pas qu'il aille mal après tout ça. Elle n'a pas insisté, nous nous sommes serrés la main. J'ai bien vu en repartant qu'elle me dévisageait, qu'elle fouillait dans sa mémoire, qu'elle pensait que peut-être j'étais Hellman. Je suis ressorti de l'hôpital, j'ai repris la route. Passé le tunnel, j'ai instinctivement guetté le bord du goudron pour voir si une voiture y était garée, comme ce jour déjà ancien de septembre. Je me suis demandé si j'allais rencontrer un autre homme arrêté là, en larmes, qui à son tour me raconterait son histoire. Mais sur la bande d'arrêt d'urgence, il n'y avait aucun véhicule stationné. Et j'ai continué sans ralentir. Au sol, sur le bitume, on pouvait voir les traces de freinage d'un camion. Par-delà le bas-côté, des champs s'étendaient à perte de vue, barrés seulement au loin par la ligne sombre des collines. Elle s'est assise contre le mur pour raconter. Un an a passé depuis cette nuit-là. Elle ramène les genoux entre ses bras, commence son récit d'une voix calme. Dans son histoire, c'est d'abord le matin. Il fait beau, la lumière d'août est vive, la mer est là, tout près. La voiture descend dans l'odeur des pins. J'entends les graviers qui crissent sous les pneus. J'aperçois l'eau qui scintille à travers les aiguilles des pins en contrebas. J'entrevois la maison, suspendue au-dessus de la mer. Et pour la première fois depuis des mois, je sens que je respire mieux. Qu'enfin commence à dégeler le bloc de tristesse qui, depuis l'accident, m'écrase, m'anéantit, me vide. J'ai réservé presque par hasard, au dernier moment, une annonce qui venait d'être mise en ligne et que, par chance, j'ai vue à temps. Maintenant, la propriétaire nous conduit jusqu'à la chambre et tout ce que j'avais vu sur les photos est vrai. Je regarde la vue, je regarde la mer devant moi qui s'étend à l'infini, le soleil qui rebondit sur l'eau. Je pense que toute la journée, je vais pouvoir être là, devant cette mer, dans cette lumière. Je devine la joie que je vais éprouver là. Je fais plus que la deviner. Je la sens déjà, qui me soulève, qui m'emplit, qui revient. J'en suis bouleversé. Il y avait si longtemps qu'elle n'était plus là. Il me semblait si impossible qu'elle revienne jamais. Pendant toutes les journées qui suivent, je suis heureuse. Heureuse comme je ne pensais plus pouvoir l'être. Il n'y a qu'un lit double dans la chambre et au début, la propriétaire s'inquiète de nous voir arriver tous les quatre. Elle dit « C'est petit, vous savez, vous êtes sûr que ça ira ?» Nous montons un lit de camp, tirons jusque dans la chambre un des transats de la terrasse et tous les quatre, nous nous serrons là, dans la même pièce. Les jours et les nuits passent et je constate qu'à aucun moment je ne me sens à l'étroit. Au contraire, je voudrais que toujours la vie ressemble à ça. Que toujours les nuits et les journées se passent dans cet entassement des corps. Cette promiscuité, la masse chaude de mes enfants contre moi. La masse de mon homme endormi là, tout proche. Pas collé contre moi, mais proche. Le matin, j'ouvre les yeux et le plus souvent, le soleil est déjà haut. La chaleur entre dans la chambre par les baies restées ouvertes. Je Je regarde mes enfants et leur père qui continuent de dormir. Je regarde leur visage écrasé contre l'oreiller. Leur bonheur jusque dans ce sommeil lourd, plein. Je sais notre chance. J'ai la claire conscience qu'il ne nous sera pas souvent donné de vivre une paix comme celle-là. Je m'assois sur la terrasse et chaque matin, la mère est là. C'est la même féerie. Elle n'a pas bougé, elle est restée pendant la nuit. Et je retrouve son bleu immense. Je peux recommencer de m'en éblouir les yeux. Je peux rester jusqu'au soir si je veux dans la lumière de son étendue, de son calme. À m'émerveiller que chaque matin, la magie recommence. Qu'à jamais tout ce bleu me soit offert avec ce soleil dessus. Pendant toutes ces journées, je lis. Inépuisablement devant la mer, je lis. Je dors. Je me serre contre mes enfants qui eux aussi dorment. Contre mon homme avec lequel parfois je reste faire la sieste pendant que les enfants sur la plage en contrebas jouent. Je le sens qui a cessé lui aussi de compter, cessé de vouloir. Il ne cherche plus à remplir le temps. Lui aussi, simplement s'y allonge, s'y étend, s'y affale. Comme tous les quatre, nous nous affalons le soir dans nos lits. Ce sont des vacances où j'oublie. Des vacances où je nage. Où après quelques heures à lire invariablement, je descends, plongé dans le bleu. Les carreaux de la terrasse ont chauffé au soleil pendant que j'étais assise et à présent ils me brûlent doucement la plante des pieds. En 30 secondes, je suis en bas et les rochers aussi sont chauds. Je sens leurs arêtes sous mes pieds, je soigne mes appuis pour m'approcher de l'eau sans glisser. Je vois par transparence les rochers bruns et verts, les dalles hérissées d'oursins, les bancs de sable clair, les apics sombres. Quand je remonte, j'ai les jambes et les bras qui tremblent un peu de fatigue. J'ai joué à me faire peur, je me sens vivante. J'attrape le tuyau d'arrosage, resté au soleil et je me rince à l'eau brûlante. Je remonte et j'attrape sur l'étagère une tomate dans laquelle je mords. Le jus acide éclate dans ma bouche. Les enfants sont rassurés que je sois de nouveau là. Ils disent « On t'a vu, maman. Tu étais tout là-bas, très loin. On ne te voyait presque plus. » Je les embrasse. Je me rassois en finissant de manger ma tomate. Ma bouche est pleine de sel, le sel de la mer. Le sel de ce bleu immense qui me comble depuis que je suis là. Je reprends mon livre. Je m'amuse que mes doigts mouillés fassent un peu gondoler les pages. Je lis mieux qu'avant la baignade. Mon esprit s'est raffermi. Je traverse chaque phrase en la fendant net. Je lis vite. Je lis clair. De toutes ces vacances, je n'ai presque que des souvenirs de chaleur, de soleil aveuglant, d'eau transpercée par les rayons de l'après-midi. Parfois seulement, le soir, passé minuit, les enfants couchés, je tire une chaise tout près de la rambarde et je m'assieds dans l'obscurité. Dans mon souvenir, nous sommes seuls dans la baie. Nulle part alentour, il n'y a d'autre habitation. Pas de restaurant, pas de cabanon, pas même de bateau au large, pas de lumière. Pas de bruit, le noir, les rochers qui s'enfoncent dans l'eau noire, la mer devenue cette masse sombre, énorme, mouvante, que j'entends continuer de battre doucement, en contrebas, dans la nuit. La mer qui toute la journée a semblé tellement sûre, tellement accueillante, et qui maintenant est tellement noire. Et puis, le dernier soir arrive. Cela fait 10 jours déjà que je repousse le départ. Le père de mes garçons a dû s'en aller reprendre le travail. Le temps tire en longueur. Je suis resté seul avec mes fils un soir de plus, puis un autre, puis encore un autre. Maintenant, c'est vraiment la fin. Il est 2 heures du matin. Le départ est prévu à 6. Les garçons dorment. J'ai fini de faire les valises. Tout est prêt. À l'aube, il n'y aura plus qu'à monter en voiture et à nous en aller. Je reviens m'asseoir une dernière fois sur la terrasse. Je regarde le noir de la mer et du ciel. Je me rappelle l'état dans lequel je suis. La gratitude que j'éprouve vis-à-vis de ce lieu. La calme certitude de ce que je lui dois. Là, je suis revenu à la vie. Là, j'ai retrouvé la joie. Là, non seulement j'ai été heureuse, mais j'ai su dès la première seconde que j'allais l'être. Tous mes sens immédiatement me l'ont dit. J'ai retrouvé non seulement ma joie, mais ma faculté d'en deviner le retour. J'ai vu que je pouvais toujours me fier à mes sens, que c'était toujours là, que je savais qu'il n'y avait qu'à m'écouter. Toute la soirée, le temps est resté couvert. Il fait un noir inhabituel, un noir plus total encore que d'habitude. Il n'y a pas une étoile, pas un rayon de lune. Le ciel est bouché, sans plus un souffle d'air. Tout là-bas, au large, des éclairs zèbrent le ciel, allument sur la mer des lueurs oranges, presque rouges. Il n'y a plus un bruit, plus un souffle. Je pense que peut-être je ne reviendrai plus jamais là, que c'est la dernière fois, que même si je reviens, ce ne sera plus jamais pareil. Alors d'un coup, je veux descendre. Je veux dire au revoir à cette baie qui m'a rendu à la vie. Je vérifie que les garçons dorment, que leurs corps sont bien enfoncés dans le matelas, pèsent bien dessus de tout leur poids de corps d'enfant endormi. Et je descends, habillé comme je suis, sans chaussures, sans maillot de bain, sans serviette. J'arrive en bas. Je regarde l'eau silencieuse, étale, lisse, comme je ne l'ai jamais vue. J'enlève mes vêtements un à un, je les dépose sur le sable près de moi. Je suis nu. Je pense aux femmes que j'ai vues offrir des libations à l'océan, dans ce pays où j'ai vécu il y a des années. Je pense aux flots de l'écaillé que j'ai regardé blanchir, le flux et le reflux des vagues, se dissoudre lentement en laissant de grandes traînées blanches dans les rouleaux, à chaque seconde plus étirées, plus torsadées. J'entre dans l'eau, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille. Je regarde l'immensité du ciel au-dessus de moi, sans la moindre étoile, sans le moindre rayon de lune. J'avance, le liquide noir m'enveloppe. Je nage sans plus rien voir, je suis seul au milieu de la mer immense et sombre. Je ne vois plus mes mains, plus mon corps. Il y a 3 mois, j'ai failli mourir de perdre tout mon sang. J'ai senti la vie qui s'en allait de moi, qui m'abandonnait, s'enfuyait de moi, laissait mon corps à sec. Et voici que je renais. Voici que l'eau noire m'inonde à nouveau. Voici que de toutes parts les flots me reprennent. Que je refais partie du monde. Que je baigne de nouveau dans le sang que j'ai failli perdre. Le sang de la vie que je devais donner. Qui cette nuit-là a failli me tuer. Alors une étincelle surgit au bout de mes doigts. Une étincelle, puis une autre encore. Mon cœur bat très fort. Je suis heureuse. Je tremble. J'ai peur d'avoir mal vu mes noms. Ça recommence. Maintenant, ce sont des gerbes de paillettes qui, à chaque poussée dans l'eau, me filent entre les doigts, habillent mes jambes de lumière. Je voudrais crier tant je suis ému, me pulvériser en millions d'atomes pour mieux m'unir à la mer, mieux la remercier. Le sang me bat aux tempes et dans tout le corps. Là-haut, mes enfants dorment et ne savent rien. Je voudrais dire à tout le monde le miracle et je suis seul. La mer et moi seuls savons. Folle qui croyait que l'existence ne me surprendrait plus. J'ai peur et je suis heureuse. Je suis là où je veux être. Je nage dans l'eau qui m'a ramenée à la vie. Je me sens sorcière. Je me sens chamane unie à la mer toute puissante par une nuit sans lune.